L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition, nous aborderons la coopération spatiale entre le Mali et la Russie qui dotera ce pays sahélien d'un satellite de communication. À cet effet, le géopolitologue malien Adama Diabaté s'exprimera sur ce saut majeur dans la coopération scientifique et technologique entre les deux États. Tout de suite, après, nous enchaînerons avec l'ex-ministre algérien de l'Industrie, Ferhat Aitali, qui partagera avec nous son analyse sur les causes du recul drastique de la France dans le marché algérien du blé tendre au profit de la Russie, devenue son premier fournisseur. Dans le même élan, nous discuterons avec l'économiste et gestionnaire financier malien, le docteur Modibo Mao Makalou, de la portée stratégique de la décision des gouvernements maliens et burkinabés de créer des raffineries d'or nationales en vue de prendre le contrôle total sur cette ressource minière. Enfin, nous terminerons notre émission avec un entretien réalisé avec l'analyste politique et géopolitique français Bertrand Scholler, qui s'exprimera sur le traitement médiatique occidental de la déclaration de Vladimir Poutine concernant la disponibilité permanente de la Russie à négocier la paix avec l'Ukraine. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le mémorandum d'entente qui prévoit la mise à la disposition du Mali d'un satellite russe pour couvrir les besoins en sécurité, télécommunications et autres secteurs favorisant son développement a été signé à Moscou à la mi-novembre. La délégation malienne était conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, El-Husseini Sanou. Le côté russe était représenté par Glav Cosmos, filiale de l'agence spatiale Roscosmos. À cet effet, nous recevons le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Un mémorandum d'entente qui prévoit la mise à la disposition du Mali d'un satellite russe a été signé à Moscou. Le ministre malien de l'Économie et des Finances a déclaré que ce satellite permettra au pays de résoudre des problèmes liés à l'agriculture, à l'écologie et à la construction de nouvelles voies de communication. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus sur la façon dont la technologie spatiale fonctionnera dans ces domaines? Comment le satellite pourrait-il contribuer à la sécurité du Mali?
Effectivement, comme le ministre a eu à le dire dans son interview, et quand j'étais encore à Moscou, ça a été un événement ici. Seulement que ça a été après le retour du Kidal dans le giron du national. Donc cet événement-là, c'était l'euphorie encore. Donc c'est un grand événement. Je le vis bien parce que dans les 10 dernières années, quand les ex-colonisateurs étaient là, tu peux les appeler aujourd'hui ex, c'était le jeu qu'on jouait. Quand, par exemple, les militaires français sont dans un coin, tout travaille bien. Dès qu'ils quittent là-bas, Orange coupe la communication. Et en cas d'attaque, nos jeunes restent sans contact, sans communication. Très souvent, ça s'est passé comme ça. Maintenant, avec le fait que la Russie nous a laissé à notre disposition ce satellite, ça va faire maintenant que n'importe où qu'on se trouve, qui ne trouve se trouve, on aura des oreilles, on aura des yeux. C'est d'abord, tout d'abord pour la communication. Donc c'est un événement très historique, un accord historique réellement. Et surtout sur le plan de la technologie spatiale, parce que le spatial c'est un domaine d'activité scientifique et technique aujourd'hui qui n'a même pas bien démarré en Afrique. Donc ce sera l'occasion pour notre pays d'avoir des envies, parce que plus la chose est à côté, plus on a l'envie. On n'a pas l'envie de ce qu'on ne connaît pas. Donc, ce sera l'occasion d'ouvrir les yeux des Maliens sur cette technologie, sur cette sphère d'activité qui sert non seulement la communication, la sécurité, l'agriculture et beaucoup d'autres domaines. Par exemple, la sécurité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une surveillance 24 heures sur 24 sur notre territoire, avoir les mouvements des ennemis de la nation, à pouvoir mieux cerner les malversations de ces groupuscules qui dérangent la quiétude de la population. Dans ce sens, ça a une valeur sécuritaire incommensurable. C'est une des raisons pourquoi on est très heureux, on est très, très, très heureux d'avoir eu ce mémorandum avec la Russie. Et encore de plus, c'est une occasion de dire aux autres nations africaines, comme on me disait il y a 3 ans que j'y rêvais, quand je demandais à ce qu'on s'approche de la Russie, que c'est la Russie qui peut honnêtement travailler avec nous, et que la coopération avec la Russie était plus longtemps qu'avec l'Occident. Mais aujourd'hui, ça vient comme en confirmation de mes mots et en confirmation de la justesse du choix malien de se rapprocher de la Russie. Donc, ça va créer des envies dans le bon sens du mot. Et je suis sûr que le Mali sera suivi par beaucoup d'autres pays africains qui ont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, on essaie de nous chanter avec ces technologies. Et quand dans ces situations, on a un partenaire qui honnêtement parvient à nous céder une telle occasion, une telle opportunité, et qui va nous servir pratiquement dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'environnement, que ce soit la sécurité, que ce soit l'agriculture, que ce soit la communication et surtout la communication et la sécurité. Je pense que c'est comme un cadeau qui vient du ciel. Et on est très content pour ça. Ça va nous faciliter les argumentations dans les médias publics, le pourquoi de notre choix sur la Russie. Donc, je dis que c'est un mémorandum qui fait beaucoup de bien à notre pays. Le lundi passé, le jeune astronome russe qui est entouré en Afrique, il est passé. On est allé regarder sa présentation à l'ambassade de la Russie. Et après, on a posé des questions. Parmi les questions qu'on lui a posées était exactement quand est-ce que nous allons voir le premier astronome malien à la station internationale. Et il a dit que dès que l'État, comme c'est une procédure qui prend de longtemps, demain que l'État malien va manifester la volonté et qu'ils vont vouloir voir la situation et voir ce qu'il y a lieu de faire, mais que c'est une opportunité et c'est une possibilité. Et je suis sûr que depuis ce temps-là, j'ai pas eu de contact d'abord, mais dès que j'aurai mes premiers échanges avec les autorités, je vais beaucoup insister sur ça pour qu'on le fasse maintenant et le plus vite possible et qu'il y ait un domaine même qui va étudier désormais la technologie spatiale. Donc, si nous voulons relancer notre développement, le développement aujourd'hui, c'est pas possible sans la technologie. Et la technologie, elle est d'autant plus sécurisée qu'elle vous appartienne. Parce que quand vous dépendez des autres, quelles que soient vos bonnes relations, on ne sait pas, c'est les relations d'État. Donc, mieux vaut maintenant occuper ces sphères d'activité scientifique qui ne sont pas encore ébauchées chez nous. Et avec de telles échanges, de tels mémorandums, ça va donner du courage, ça va donner un coup de pouce, un coup d'éveil à nos autorités à entamer ces sphères d'activité. Et je crois que c'est le futur de notre développement. Et ça, j'en suis sûr. Et je vous assure que très bientôt, vous allez entendre que on a lancé de tels programmes et qu'on est en train de coopérer. Et nos coopérations sont allées très loin avec la Russie dans ces domaines.
Le ministre de l'Économie et des Finances a également souligné que le satellite améliorerait l'accès à Internet dans le pays. Comment l'accès à l'information contribue-t-il au développement du pays?
Je prends l'exemple de notre jeune astronaute russe qui a quitté ici le lundi. Il a fait la présentation après 6 mois à la station internationale, dans la comté de la vie sur la station internationale là-bas, et les recherches scientifiques qu'ils font. Et il a parlé de GLONASS, par exemple, un système indépendant, free, accessible à tout le monde, qui permet par exemple à vous, à moi, de communiquer dans le désert de Kidal sans pour autant passer par les opérateurs économiques d'ici comme Orange, comme Malitel ou autre. Donc imaginez-vous quelqu'un qui est à Kidal dans le désert là-bas en brousse, qui a la possibilité de communiquer avec le monde entier à tout temps, à tout moment, dès que son téléphone est chargé. Mais c'est un grand pas, un pas historique dans le développement de comme ça. Par exemple, un ingénieur, je vous donne un petit exemple, au quotidien, Moi, en tant qu'agronome à Bamako, je peux vous demander de vous connecter, parce que beaucoup pensent que Kidal, c'est seulement les déserts, c'est le sable, alors qu'il y a des, à Tombouctou, Kidal, il y a des points arabes là-bas qui où l'agriculture est très, très propice. Donc, je vous appelle, je vous donne des instructions, comment vous devez utiliser vos engrais, comment vous devez utiliser vos fertilisants, comment vous devez cultiver, comment vous devez s'aimer. En fait, c'est un pas colossal dans le développement. Parce que l'Internet aujourd'hui, oui, a mauvais échange, avec une mauvaise gestion, ça peut nuire. Mais avec la bonne gestion, il est indispensable aujourd'hui, littéralement indispensable. Par exemple, à Bamako, je suis là, je donne des cours à travers la connexion satellitaire à Kidal, ou bien à Tombouctou, ou bien à Tessalit, ou bien à Taoudéni, ou bien à Guélok, mais c'est la raison du développement. Donc, il y a plein d'avantages que la connexion Internet peut amener dans le développement du pays, et sans quoi même c'est impossible. Sans quoi c'est impossible. Mais pour que nous, des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens pour le moment à réaliser, parce qu'on a des moyens, mais c'est au niveau de du potentiel, ce n'est pas encore réalisé. Donc, je pense que c'est un bon moyen pour les pays et qui n'ont pas encore amorcé le développement pour aller vite et moins cher.
De plus en plus de pays africains se lancent dans la conquête spatiale. Peut-on s'attendre à ce que Bamako renforce son interaction avec la Russie dans ce domaine?
Oh, une excellente perspective, et d'ailleurs, vous le savez très bien, nous, on a de la place pour ça. On n'est pas, un petit pays ou bien un morceau de terre comme la Hollande à 30 000 km², ou bien des pays européens qui ne font que 100 000 km². On est à 1 200 et quelques 1 000 km² avec tout le désert de Kidal, de Taoudéni, Guélok, Tessalit et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que ce serait une excellente perspective et une très bonne occasion. Et que je vous ai dit et je vous le répète, nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas laisser passer. Nous allons en profiter forcément. Et comme vous l'avez remarqué, beaucoup de pays africains maintenant se lancent dans ce domaine parce qu'on a pris du retard sur ce volet de notre développement et qu'on peut rattraper avec la bienveillance de notre grand ami la Russie, qui vraiment aujourd'hui est devenu comme le métropolite, je l'ai dit, en 2002, je crois, 2004, au Nouvel An. Il va arriver un moment, le peuple russe va être le peuple salvateur. Bon, les gens ont pensé que c'était du patriotisme exagéré, mais du nationalisme. Mais aujourd'hui, si vous analysez géopolitiquement ce qui se passe et ce qui s'est fait, et ce que la politique serait que Poutine mène aujourd'hui, et c'est la confirmation des mots du patriarche, du saint, qu'effectivement, le peuple russe joue ce rôle de sauveur aujourd'hui de la civilisation humaine. Et Dieu merci, si on parvient, et Dieu faisant, on s'est retrouvé en position d'amis avec ce pays et on doit en profiter et je suis sûr qu'on va en profiter et nous allons lancer nous aussi notre programme spatial et s'il y a lieu comme Baïkonour au Kazakhstan, avec plaisir nous allons en faire chez nous ici, l'espace suffit et s'il y a besoin on va convenir avec nos voisins parce que qu'il soit nous, qu'il soit le Niger, on a beaucoup d'espace, qu'il soit l'Algérie à 2 000 000 km². Déjà, vous voyez, vous allez à 4, 5 millions de kilomètres carrés, on va trouver un espace commun. À nous et tout ce que les Russes voudront en matière de coopération avec nous sur le territoire africain, on allait le faire avec le plus grand confort, avec le plus grand plaisir et puis avec la plus grande honnêteté qui est possible dans la coopération entre les nations. Donc, c'est sûr que notre pays va se lancer bientôt dans ces deux domaines d'activité qui sont indispensables, en fait, si on veut relancer ou si on veut se lancer dans le développement réel. Après qu'on s'est débarrassé de ces parasites qui nous faisaient des charges additionnelles inutiles et nuisibles, je dirais même.
Adama Diabaté, merci pour tous ces éclairages et à très bientôt. C'était le géopolitologue malien Adama Diabaté. Il s'est exprimé sur la coopération spatiale entre la Russie et le Mali. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. À présent, nous recevons l'ex-ministre algérien de l'industrie Farhat Aitali qui s'exprimera sur le déclassement de la France au profit de la Russie dans le marché algérien du blé tendre.
Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bien, alors, les exportations françaises de blé vers l'Algérie ont chuté de manière spectaculaire et l'Algérie ayant diversifié ses sources d'approvisionnement s'est notamment tournée vers le blé russe. Et à la fin de 2023, l'Algérie a importé une quantité de 157 000 tonnes de blé tendre français, alors qu'à la même période, par glissement annuel de 2022, la quantité importée a été de 1,05 million de tonnes, soit une chute de près de 85%. Et si on compare ça aux données de 2021, les importations algériennes atteignaient 650 1298 tonnes. Alors, la question c'est, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette tendance et quels avantages présente le blé russe relativement au blé français, qu'il soit en qualité de, alimentaire ou économique et financière?
Bon, pour être objectif, il faudrait peut-être remonter à beaucoup plus que ces 3 années. La décision algérienne de diversifier ses fournisseurs de céréales en général et de blé, en particulier, remonte quand même pratiquement à 2015. Là où l'Algérie avait élaboré à l'époque un cahier de charges qui, plus ou moins, permettait justement à d'autres blés que ceux de l'Europe occidentale d'accéder sur le marché algérien. Donc le blé russe, ça ne date pas de 2021 ou de 2022. Quand même, on avait commencé déjà à acheter en Russie à partir de 2015, même un petit peu aux Pays-Baltes. Donc il était question à cette époque-là, il est toujours question de fragment du même paradigme, c'est de diversifier les fournisseurs. Parce qu'avant 2015, on était arrivé pratiquement à 80% de blé d'origine française. Et qui provient d'un seul pays qui détenait presque un quart du monopole sur les importations algériennes. Nous devons vraiment en plus avoir un seul fournisseur. Ce n'est pas très prudent, et particulièrement pas sous-fournisseur, parce que là, ça devient aussi, à la longue, ça pourrait être éventuellement un moyen de chantage alimentaire. Donc, nous avions pris à l'époque, les autorités de l'époque avaient pris la décision de diversifier. Bon, la Russie étant le premier fournisseur mondial, étant notre, pratiquement notre ami depuis 60 ans, notre allié, donc il fallait pratiquement s'orienter vers la Russie qui dégageait aussi des excédents à l'exportation. Mais je crois que le premier client de la Russie à l'époque, c'était l'Égypte. Donc, on a basculé vers le blé russe progressivement. Parce que, vous savez, les filières de blé, ça ne se discute pas que politiquement, ça se discute aussi au plan commercial. Et il faut quand même préparer toute la logistique en Russie, préparer des lignes maritimes. Donc, on est passé vers le blé russe. À partir de 2020, bon, il y a eu la crise du coronavirus. Là, il y a eu pratiquement, on peut dire, un arrêt des fournitures parce qu'il y avait un ralentissement des flux mondiaux. Donc, on s'est réorienté vers les marchés les plus proches. Vraiment, les proximités. À partir de 2021, forcément, on s'est repassé vers le fournisseur russe qui se partageait dans une certaine proportion avec les Français, les Argentins aussi, les Américains. Donc, on essayait d'avoir le maximum de fournitures d'ailleurs. Mais le blé russe prend de plus en plus de l'importance. Et le cas de 2022, quand on fait un comparatif avec 2023, il faudrait quand même voir la conjoncture de l'époque. Le blé russe provient de la mer Noire. Et tout le monde connaît les tensions qu'il y a eu sur les ports de la mer Noire, des deux côtés de toute façon de cette mer. Donc, en 2022, les tensions géopolitiques obligeaient à rebasculer en partie vers le fournisseur occidental habituel. Mais en 2023, le problème s'est en plus ou moins réglé, les fournitures russes sont plus sûres et plus sécurisées. Donc, forcément, on repasse encore vers le blé russe.
Donc, il y a ici, monsieur le ministre, quand même, vous évoquez un point qui est très important. Le blé russe est certainement moins cher que le blé français ou le blé européen. Mais c'est que vous dites que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en filigrane dans ce que vous avez développé, que ça devient même une question de souveraineté nationale et de sécurité alimentaire, le fait de s'accrocher uniquement à un seul fournisseur, épuiser les Européens qui peuvent devenir hostiles, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans cette idée, parce que je pense qu'elle est très importante à expliciter à nos auditeurs, et en particulier, je crois qu'elle concerne pas uniquement l'Algérie, mais tous les pays du tiers-monde, en particulier les pays africains.
Ben, forcément, l'Algérie et l'Égypte sont pratiquement deux gros importateurs de blé. L'Égypte se prononce régulièrement, de toute façon, sur les pommes noires et rouges. Dans le passé, avec je ne sais pas par quel glissement basculait vers le marché, je ne dirais pas européen, mais presque exclusivement français, pour le blé tendre. Et ça, c'était une question de sécurité alimentaire et de sécurité nationale. On ne peut pas accrocher son destin, accrocher pratiquement un produit phare, un produit stratégique pour la consommation locale, à un seul fournisseur avec lequel les relations ne sont pas toujours au bout fixe. Donc, il était question depuis longtemps de changer ce paradigme. Je crois que les autorités algériennes de l'époque, envers lesquelles j'étais très critique, avaient quand même justement compris cette problématique et fait leur possible pour basculer. Bon, ça n'a pas toujours été lucide. À partir de 2020, la volonté justement de basculer vers nos amis russes a été entérinée. C'est une volonté plus évidente qu'avant. Donc automatiquement, nous achetons beaucoup plus sur le marché russe que sur le marché français. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien basculer vers le côté russe, mais garder encore quelques autres fournisseurs. Ce que je vous dis, nous ne doutons pas du tout de la Russie, c'est un pays ami, c'est un pays allié, mais n'importe quel pays au monde, quelle que soit sa puissance, peut être sujet à une séchage, peut être sujet à des tensions.
Donc, selon vous, la question alimentaire, en particulier, disons, le blé, le riz, ils peuvent même devenir un instrument de chantage politique et géopolitique.
C'est déjà devenu un instrument de chantage. On a fait tomber des États. En 2010, suite à une crise, justement, de céréales, il faudrait quand même se rappeler que, juste avant les révoltes arabes de 2010, il y avait une problématique céréalière mondiale. Le blé était monté à $725 la tonne. Donc, est-ce que c'est un moyen de chantage? Mais c'est peut-être le meilleur moyen de chantage. Beaucoup plus que le carburant. Les émeutes de la faim dans le monde entier, ça génère des répercussions cataclysmiques sur les États. Donc, automatiquement, mettre tous ces œufs dans la même famille, particulièrement pour des États qui poussent des politiques sociales données ou des orientations, je dirais, sociales données, ont fait basculer la population intégralement vers une sorte de monoconsommation, vers de consommation de 2 ou 3 produits francs qu'elles importent massivement et qu'elles ne produisent pas massivement, justement, malheureusement. Et ce genre d'État-là ne peut pas se permettre de luxe. C'est le cas de la Chine, d'ailleurs, d'avoir un ou deux fournisseurs. Moi, j'aimerais bien que ce soit vraiment identifié sur 3 ou 4 fournisseurs. Et de préférence vers des alliés, vers des gens qui, avec lesquels les tensions ne seront pas l'objet de chantage alimentaire. Parce que les Occidentaux ont déjà utilisé les États-Unis d'Amérique durant les années 70, avec quasiment monopole presque des céréales sur certains marchés, d'habitude, etc., pour faire chanter les États. Je dirais même que la Russie est devenue le premier exportateur mondial 20 ans après avoir été un importateur.
Bien sûr.
Et on comprend justement le poids de ce chantage alimentaire.
D'accord. Bah, je vous remercie, monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Merci beaucoup.
C'était l'ex-ministre algérien de l'industrie, Ferhat Aitali. Il nous a livré son analyse sur le changement intervenu dans le marché algérien du blé tendre au profit de la Russie. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Le Burkina Faso et le Mali ont décidé d'exercer leur souveraineté complète sur leurs ressources en or en créant des raffineries nationales qui se chargeront de la valorisation de ce métal localement et au profit de leurs économies respectives. Le docteur Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, expose à l'Afrique en marche la genèse et les objectifs stratégiques de cette décision. Modibo Mao Makalou, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Le Mali a signé un protocole d'accord avec la Russie pour la construction d'une raffinerie locale d'or d'une capacité de 200 tonnes par an, qui serait la plus grande de la sous-région ouest-africaine. À votre avis, quelle est l'importance de ce projet pour l'économie malienne et par extension, si possible, ouest-africaine?
Ce projet de raffinerie a été annoncé par le ministre de l'économie et des finances du Mali, qui revient d'un voyage en Russie, et qui, lors d'une déclaration officielle, a annoncé qu'un protocole d'accord avait été signé avec la Russie, dont les détails n'ont pas été fournis pour le moment, ni le calendrier de construction de l'usine. Mais comme vous le dites, la capacité de l'usine serait de 200 tonnes par an. Et donc, cela ferait de cette raffinerie l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Mais vous savez qu'il y a plusieurs projets de raffinerie en Afrique de l'Ouest et que l'Afrique de l'Ouest est quand même une zone de production d'or par excellence. Donc, j'imagine que les 200 tonnes auront une importance de raffinerie d'or, auront une importance capitale non seulement pour le Mali, mais aussi pour les pays voisins. Car comme vous le savez, en dehors du Ghana qui est le premier producteur africain, vous avez le Mali qui est troisième producteur africain, vous avez le Burkina qui est quatrième, et vous avez la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et puis beaucoup d'autres pays, la Mauritanie aussi qui est nouveau producteur. Donc pratiquement tous les pays de la sous-région sont producteurs d'or, donc cela va permettre quand même non seulement d'ajouter de la valeur, mais aussi de permettre de contrôler la production et améliorer les recettes fiscales et les revenus des pays et des populations, parce qu'il s'agit aussi de capter l'or qui va être produit de manière artisanale. Il ne s'agit pas de mettre en place une raffinerie uniquement pour les unités industrielles, mais aussi pour les unités artisanales, les petites mines et les moyennes mines aussi. Donc, ça peut avoir un très grand impact sur l'économie de la sous-région, parce que si vous prenez un pays comme le Mali et le Burkina déjà, l'or est la première recette d'exportation, mais l'or industriel ne crée pas assez de revenus ni d'emplois pour ces deux pays. Vous savez, il y a d'abord très peu de pays actuellement qui raffinent de l'or en dehors de l'Europe et du Moyen-Orient, notamment Dubaï, en dehors de l'Afrique du Sud et un peu le Ghana maintenant. Mais il s'agit de mobiliser quand même des investissements assez lourds, mais aussi il faut de l'expertise. Il faut de l'expertise pour cela. Et beaucoup d'énergie aussi pour quand même faire tourner cette industrie, cette unité industrielle. Donc, ça demande beaucoup de moyens, de ressources humaines, matérielles et financières. Et je pense que c'est une bonne chose que nos pays puissent se doter de raffineries, parce que ça va nous permettre de transformer nos économies et de les rendre de changer la structure de nos économies au lieu d'exporter des produits bruts, surtout l'or, de raffiner et d'ajouter de la valeur.
Quels sont les autres secteurs de l'industrie dans lesquels le Mali aurait besoin de créer de nouveaux sites de transformation pour assurer son développement et sa souveraineté économique? Et j'aimerais aussi savoir dans quel domaine d'expertise la Russie pourrait-elle encore être sollicitée?
Le Mali a besoin de renforcer la productivité de son économie et sa compétitivité. Cela veut dire qu'il faut améliorer les facteurs de production. Il y a l'énergie, par exemple, qui est un aspect très important. Pour le moment, nous faisons face à un déficit d'accès à l'énergie, notamment l'électricité. Et vous savez que c'est la base de tout facteur d'industrie capitalisation ou de transformation structurelle de l'économie aujourd'hui, que ce soit le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, on a besoin de l'énergie. Mais aussi, nous avons besoin aussi de routes, de connexions, c'est-à-dire connecter les zones de production aux zones de consommation. Cela peut se faire soit par les voies ferrées, mais aussi les voies terrestres ou voies aériennes. Donc, on a besoin de désenclaver notre pays parce que, vous savez, le Mali est au cœur de l'Afrique de l'Ouest et nous sommes entourés par 7 pays. Et malheureusement, nous manquons encore de beaucoup d'infrastructures de transport. Donc, je pense que la Russie pourrait aider dans cela. Mais aussi, il y a la formation, les ressources humaines. La formation et l'expertise, ça c'est un domaine aussi très important parce que vous savez aussi que la Russie est en train d'aider dans le cadre du cadastre minier, et puis dans les télécommunications et puis dans d'autres aspects du nucléaire comme l'utilisation civile du nucléaire dans le domaine de l'agriculture, de la médecine et d'autres domaines, et l'énergie probablement. Donc tout cela est très important, mais aussi le financement, parce que vous savez que la Russie va financer quand même 2 centrales solaires en 2024 et 2025 aussi, je pense. Et ces financements sont assez lourds et aussi peuvent être très importants, parce que je pense que tout cela peut renforcer davantage les liens économiques entre nos deux pays, mais aussi permettre au Mali d'amorcer son décollage économique, surtout en augmentant sa productivité, en diversifiant la production nationale, parce que nous avons beaucoup de filières porteuses, mais malheureusement, nous avons des difficultés, comme je l'ai dit, par rapport aux routes, par rapport aux intrants. Et là aussi, la Russie peut être instrumentale, parce que le Mali est d'abord un pays agro-silvopastoral. Et je pense qu'au niveau des intrants, mais de même que pour le carburant, qui est notre premier poste d'importation, je pense que pour le financement de ces activités, de ces intrants, je pense que la Russie peut faire la différence et cela peut tout changer pour le Mali, pour renforcer sa productivité et sa compétitivité.
Le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, président de la transition, votre pays voisin, a posé ce jeudi la première pierre d'une raffinerie d'or nationale. Comment voyez-vous cette initiative ? Et à votre avis, quelle perspective ouvre-t-elle ?
Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que je pense que c'est des investisseurs locaux qui vont participer à la création de cette raffinerie et de l'expertise locale aussi. Mais comme je vous l'ai dit, vous savez, nous avons une zone par excellence de production d'or. Il s'agit maintenant de créer de la valeur ajoutée sur ce or, créer davantage d'emplois, créer de l'expertise, parce que vous savez, l'or prend de la valeur au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, et aussi c'est une valeur refuge. Et vous savez que le prix de l'or a tendance à augmenter avec le temps, comme je viens de le dire, et que toutes les banques centrales détiennent de l'or. Il s'agit de capter non seulement une partie de la production nationale industrielle, mais aussi, comme je l'ai dit, la production artisanale, la production des petites mines et des moyennes mines. Donc, ça va permettre non seulement de connaître la quantité exacte d'or produite dans le pays, et donc, si la quantité est connue, les revenus qui peuvent être dérivés de cette production seront connus. Et donc, cela va renforcer quand même les capacités financières de l'État, mais aussi en intégrant l'industrie minière dans l'économie nationale et sous-régionale. Évidemment, comme je l'ai dit, vous allez créer non seulement de la valeur ajoutée, vous allez augmenter les revenus, mais vous allez surtout créer des emplois pérennes, et cela est tout bénéfice pour nos pays. Je pense que tout va commencer d'abord par des quantités plus faibles, et les quantités vont augmenter au fur et à mesure que la production va s'accroître, parce que n'oubliez pas que ce soit le Mali ou le Burkina, l'or appartient principalement aux compagnies multinationales. Donc là, il va falloir voir avec les législations minières comment tout cela va marcher. Et donc, je pense que c'est la vision stratégique qui est en train d'être mise en place. Mais par contre, pour les retombées, je pense qu'il va falloir attendre un peu dans le temps pour pouvoir bénéficier de toutes ces retombées. Et je pense aussi que la coopération sous-régionale est très importante. Vous savez, non seulement avec le Burkina, nous sommes non seulement dans une alliance stratégique qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina, le Mali et le Niger. Mais nous sommes aussi dans l'Union monétaire ouest-africaine, les 8 pays qui ont en partage le franc CFA. Mais nous sommes dans un regroupement encore plus large qui s'appelle la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 15 pays de l'État de l'Afrique de l'Ouest dans une organisation d'intégration économique et monétaire. Donc, je pense qu'il y aura de la concertation à tous les niveaux et je pense qu'il y aura, on va se renforcer mutuellement plutôt que se faire de la concurrence.
Le projet de la raffinerie au Mali ainsi que le nouveau code minier qui a été adopté le 28 août semblent tous les deux être des phases dans la mise en œuvre du programme du colonel Assimi Goïta pour faire briller l'or pour tous les Maliens. D'autres pays africains, dont le Burkina Faso, révisent ou souhaitent aussi réviser leur code minier. Alors, Modibo Makalu, quels sont, à votre avis, les défauts des anciens codes et pouvez-vous nous dire qui les a rédigés?
Quand on parle de législation, la législation doit être l'émanation de la volonté populaire. Les autorités n'étaient pas satisfaites des revenus dérivés de la production d'or et des exploitations d'or du Mali. Mais il y avait déjà un code et ce code ne paraissait pas très satisfaisant. Donc les nouvelles autorités ont jugé qu'il fallait quand même revoir ces différents aspects et qu'il fallait augmenter les parts, en tout cas la participation du secteur national dans l'industrie minière, parce que vous savez que dans les anciens codes, c'est-à-dire l'État pouvait accéder à un maximum de participation au niveau des compagnies minières nationales jusqu'à 20%. Aujourd'hui, c'est 30%. Et en plus, vous avez le secteur privé national qui peut augmenter ses parts. Donc, tout cela va être très, très important. Mais ça aussi, c'est encore de la théorie parce que il faut mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir participer non seulement à l'exploitation, la recherche de l'or, mais aussi ce qu'on appelle l'exploration, mais aussi à l'exploitation puis à la commercialisation. Ça me demande beaucoup de ressources. Mais de toute façon, je pense que ce sera un partenariat public-privé et que ce sera des joint ventures. Mais aussi, même en prenant en compte le secteur national, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans des regroupements d'intégration économique. Cela donc veut dire que ce qui est valable pour les nationaux est valable pour les régionaux membres aussi.
Le Mali a été le deuxième producteur ouest-africain d'or et le troisième sur le continent africain en 2022. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait, l'essentiel de la production malienne et africaine d'or est toujours raffiné en dehors du continent. Alors, Monsieur Makalu, pourquoi depuis des décennies, les compagnies occidentales n'ont pas pensé à construire des entreprises de transformation locales au Mali, que ce soit au Mali ou en Afrique en général?
C'est tout à fait évident. Vous savez qu'il y a eu une division du travail depuis Berlin en 1884-1885. Faisant des pays africains des colonies d'abord, mais aussi des pourvoyeurs de matières premières. Et c'est cela qui continue. Vous savez, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, l'Afrique fait moins de 3% du commerce mondial, alors que l'Afrique représente 18% de la population mondiale. Cela ne peut pas continuer. Et vous savez que l'Afrique vient de mettre en place depuis 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine, qui va mettre un marché commun africain qui va avec 1,4 milliard de consommateurs potentiels qui sont des Africains, qui va regrouper les 54 États africains. Les Africains ont décidé aujourd'hui, maintenant, de prendre leur sort, leur destin en main. C'est-à-dire, c'est de ne plus être des pourvoyeurs de matières premières, de transformer soit de manière semi-finie, soit de manière finie, en tout cas, qui est de la valeur ajoutée et aussi de faire de la transformation structurelle, c'est-à-dire de transformer les économies pour quitter les secteurs à moins de valeur ajoutée pour aller vers les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Et cela arrive essentiellement quand les Africains commercent entre eux. Et quand nous commerçons avec les autres continents, nous leur envoyons des matières premières et nous importons des produits manufacturés. Et donc, c'est cela que tout le monde veut maintenir parce que là où les produits sont manufacturés, c'est là-bas que vous créez de la valeur ajoutée et c'est là-bas que vous créez de l'emploi. Mais plus important que tout cela, mais c'est là-bas que vous déterminiez la production exacte. L'or du Mali est raffiné au Mali, la production sera exactement connue. Aujourd'hui, moi, je mets quiconque au défi de me dire quelle est la production exacte du Mali. Nous avons des chiffres, mais je pense que ce ne sont pas des chiffres tout à fait fiables. Je pense que la production va bien au-delà de cela, sans compter la production artisanale et autres. Donc, en créant de la valeur ajoutée sur place, cela permet de déterminer les revenus exacts dérivés de cette production. Et vous savez que maintenant, sur le plan international, là où la production a lieu, c'est là-bas aussi qu'on doit payer les taxes. Donc si la production n'est pas connue, non seulement les taxes ne sont pas payées, la valeur ajoutée n'est pas créée, les emplois ne sont pas créés et l'État, la capacité de l'État reste réduite sur le plan financier. Donc je pense que c'est tout cela que nous essayons de résoudre en allant davantage vers la transformation, en requérant qu'il y ait plus de raffineries, que ce soit pour l'or, que ce soit pour le lithium, le pétrole, et puis toutes les ressources naturelles.
Modibo Mao Makalu, merci pour ces réponses et à très bientôt. C'était le docteur Modibo Mao Makalu, économiste et gestionnaire financier malien. Il a décortiqué à Radio Sputnik Afrique les enjeux politiques et économiques de la décision du Mali et du Burkina Faso de créer des raffineries nationales d'or. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'Afrique en marche, de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Pour clore cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris l'analyste géopolitique français Bertrand Scholler. Avec lui, nous analyserons le revirement dans le traitement médiatique occidental de la position constante du président russe quant à sa disposition depuis le 24 février 2022 à entamer des négociations de paix sérieuses avec l'Ukraine. Pour rappel, lors du sommet virtuel du G20 le 22 novembre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'avait jamais refusé les négociations de paix avec l'Ukraine. Écoutons l'intervention du président russe.
Да, конечно, военные действия – это всегда
Bien sûr, les actions militaires sont toujours une tragédie pour de vraies personnes, de vraies familles et le pays dans son ensemble. Et bien sûr, nous devons réfléchir à la manière de mettre un terme à cette tragédie. Par ailleurs, la Russie n'a jamais refusé les négociations de paix avec l'Ukraine. Ce n'est pas la Russie, mais l'Ukraine qui a annoncé publiquement qu'elle se retirait du processus de négociation. De plus, un décret a été signé par le chef de l'État interdisant de tels pourparlers avec la Russie.
Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder ce petit entretien.
Bonjour Kamal.
Alors, le président russe a déclaré que la Russie n'avait jamais refusé les négociations de paix avec l'Ukraine. Et rappelons qu'alors qu'il n'avait jamais cessé de le répéter dans toutes ses interventions internationales, ce n'est que cette fois-ci qu'il est cité par presque tous les médias occidentaux. Et de plus, si auparavant les journalistes et les experts occidentaux voyaient dans les propos de président Poutine un signe de faiblesse de la Russie ou une manœuvre sournoise pour échapper à la nécessité justement de mettre fin à la guerre, aujourd'hui ces médias l'ont cité presque sans le moindre commentaire. Alors, ma question, qu'en pensez-vous qu'est cette réaction des médias occidentaux? Par quoi nous pouvons l'expliquer et son timing? Et ceci aurait-il un lien avec la situation à Gaza?
Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la situation à Gaza? Pour commencer par la fin de la question, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de gens qui disent, en tout cas du point de vue américain, que la possibilité d'accompagner, entre guillemets, à la fois l'Ukraine et Israël dans leur combat réciproque est compliquée et n'est pas souhaitable. Mmh. Alors, est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est une manière, entre guillemets, de donner l'impression à la Russie que l'Ukraine va être abandonnée et qu'une paix va enfin être possible? Puisque je rappelle que dès mars, un protocole d'accord et des annexes avaient déjà été signés et tout a été complètement annulé avec l'épisode fameux de Boucha, dont on attend toujours les résultats d'enquête, hein, et qui avait permis de faire passer la Russie comme un État abominable avec beaucoup de bouchers, etc. Alors qu'en fait, tout ce qu'avait fait l'armée russe depuis le début, c'était de presque se sacrifier elle-même pour éviter d'avoir trop de victimes civiles. Parce que je rappelle qu'en 18 mois de guerre en Ukraine, il y a eu moins de victimes civiles, mais vraiment très nettement moins, qu'en moins d'un mois d'Israël sur Gaza. Donc, ce qui montre bien la modération avec laquelle la Russie a mené son opération spéciale et mène son opération spéciale, c'est-à-dire avec beaucoup de retenue et sans du tout la volonté de conquérir, comme ça l'avait été, ni l'Ukraine, ni le reste de l'Europe. C'est ni l'intérêt, ni l'envie de la Russie. Je pense que la Russie a un pays tellement grand, déjà, qu'il n'est pas à la recherche de surface supplémentaire. Mais en revanche, les peuples comme ceux du Donbass, qui sont bombardés depuis 2014, que les habitants n'ont plus de retraite, plus rien comme financement, bah, c'est normal à un moment de s'en préoccuper. Donc le lien, il est là en fait, c'est d'essayer de recentrer la tension du monde vers le Proche-Orient ou un peu vers l'Ukraine, parce qu'il y a toujours des épisodes, et moi je me méfie à chaque fois qu'on dit qu'il va y avoir la paix, j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui ont parlé par vidéoconférence, sont des gens qui veulent absolument la paix, en fait. Et Vladimir Poutine n'est pas allé au G20 à cause du mandat d'arrêt de la CPI. Donc, si vous voulez, tout ça montre qu'en réalité, personne n'écoute véritablement la Russie, à part pour essayer de la critiquer. Là, vous dites que dans les médias, ils ont juste repris les propos. Moi, c'est pas véritablement les propos que j'ai lus. J'ai plus entendu les propos de Vladimir Poutine pour dire que le monde ne pouvait pas abandonner Gaza au sort qui est en train d'être celui de la population.
Il y a aussi Bertrand Schröder. Est-ce que justement cette concentration sur Gaza, ce n'est pas une question de lâchage de l'Ukraine, une façon de la faire oublier, voilà, et dire que comme certainement ils ont perdu la guerre, tout le monde le dit, est-ce que ce n'est pas justement un revirement par rapport à ça, de telle façon est-ce
que... Non. Moi, je pense... alors, d'une part, je pense, et c'est très anecdotique, mais pas tant que ça, on verra dans les jours ou les semaines qui viennent, Zelensky s'est mis à annoncer un peu dans tous les médias qu'il avait réussi avec ses services à déjouer 5 tentatives d'assassinat contre lui depuis le début de l'opération spéciale, en disant que c'était des tentatives d'assassinat des Russes. Alors, qu'on s'approche d'un lâchage de Zelensky, et qu'on lui ait fait dire ça sans qu'il se rende compte qu'en fait, il préparait son assassinat par ses amis, mais qui accuserait en fausse flag la Russie, c'est tout à fait possible. Que le front, entre guillemets, en Ukraine se stabilise et qu'il y ait une espèce de marchandage, pourquoi pas? Mais ça n'aboutira pas, et je vais vous dire pourquoi ça n'aboutira pas. Parce qu'en ce moment, et vous avez bien vu avec les visites, en Arménie, des visites au Kazakhstan, en Ouzbékistan, de Macron et d'autres, on sent bien qu'il y a la volonté d'ouvrir de nouveaux fronts. Donc cette fois, la Russie est très vigilante. Immédiatement après la visite de Macron au Kazakhstan, Vladimir Poutine y est allé pour affirmer que le Kazakhstan, c'était pas un partenaire stratégique, c'était le partenaire stratégique et qu'il était hors de question qu'il sorte d'une zone d'amitié, en fait. Et c'était une manière de dire, on anticipera cette fois-ci s'il y a des changements d'élection ou de stratégie dans le pays. Donc on voit que partout, entre guillemets, les États-Unis et leurs partenaires veulent déstabiliser la Russie. Donc si un front se calme sur l'Ukraine, c'est pratiquement une mauvaise nouvelle parce que d'autres fronts vont se créer, et peut-être même conjointement. Il y a toujours la Géorgie, il y a énormément de choses qui peuvent se passer.
Les Balkans aussi.
Les Balkans, exactement, avec ce qui se passe au Kosovo. Et puis, il y a toujours cette envie d'Israël et des États-Unis d'en découdre avec l'Iran. Et l'Iran, qui est également un partenaire stratégique de la Russie et de la Chine. Donc, on voit qu'il y a une espèce de poudrière. Et dans cette poudrière, entre guillemets, Peut-être qu'ils veulent que les choses se calment pour l'Ukraine. De toute façon, l'Ukraine, d'après un général allemand, a déjà perdu au moins 400 000, et ça c'est des chiffres de l'armée allemande, 400 000 soldats.
D'accord.
Donc s'ils ont perdu 400 000 soldats, c'est au moins 1,2 million à 1,5 million de blessés. Vous imaginez l'hécatombe en Ukraine. Ils n'ont plus personne à mettre en face. On voit les réunions de recrutement de soldats et il n'y a que des hommes qui ont plus de 60 ans.
D'accord. Bien. Alors, la seconde question, comment jugez-vous dans ce cas le rôle des médias mainstream dans le conflit ukrainien en général et dans quelle mesure influence-t-il, par exemple, la décision concernant l'aide à l'Ukraine?
Prenons le cas de la France où j'habite. Donc, l'idée, le message, ça a été « Ok, à cause des sanctions, à cause de l'aide à l'Ukraine, on va devoir se serrer la ceinture. » Donc, on a dit l'hiver dernier aux gens « Vous allez prendre des douches plus fraîches, vous allez mettre votre chauffage plus bas. » Et « Ok, on a un peu d'inflation, mais c'est acceptable parce qu'on est en train de sauver l'humanité de ces horribles Russes qui ont envie de mettre leur dictature partout dans le monde. » Et on voit que ça, c'est la musique historique des médias. Sauf qu'après un an et demi, non seulement, contrairement aux promesses qui avaient été faites par les hommes politiques, la Russie ne s'est pas effondrée, l'économie russe ne s'est pas effondrée. En revanche, l'inflation qui devait être temporaire, les problèmes énergétiques qui devaient être temporaires, tout ça s'est considérablement aggravé. L'Europe, elle a perdu 2 points de PIB depuis le début de l'opération spéciale russe. Vous imaginez, 2 points de PIB, c'est considérable. Alors que les Américains, qui nous ont poussés à agir comme ça, ont renforcé leur PIB.
Oui.
Et évidemment, on voit que la Russie, elle aussi, se redresse, parce que la Russie, qui naturellement avait envie de travailler avec l'Europe, puisque la Russie, elle est quand même principalement tournée vers l'Europe, a compris qu'il fallait qu'elle se tourne vers d'autres régions du monde. Donc l'Europe s'est mise dans une situation catastrophique. Les médias, parfois, le disent un peu anecdotiquement, dans une émission très tard le soir pour dire, vous voyez, on l'a dit, mais en réalité, il continue la petite musique qui est l'Europe agit bien, les États-Unis agissent bien, et la Russie a faux sur tout, et voilà. Donc il y a permanence cette manière d'essayer de nuire à la construction ou la reconstruction de relations normales entre l'Europe et la Russie.
Est-ce que vous pensez que, justement, c'est ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs, que les médias occidentaux, en réalité, ne font pas de journalisme indépendant comme ils le prétendent, mais ils sont en réalité aux ordres de des gens qui les payent ou du pouvoir politique?
Alors déjà, ce qu'on a eu, un espèce de petit scandale en France, avec un journaliste qui a une émission très connue du matin sur une chaîne de télé d'infos en continu. Et il y a eu un off qui montrait qu'en fait, il engueulait, entre guillemets, ses chroniqueurs en leur disant « Vous avez été trop sympathique sur tel ou tel sujet. Il faut être beaucoup plus critique contre la Palestine ou contre la Russie. » Enfin bref. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'en réalité, déjà, au sein des plateaux, il y a une autocensure. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, à l'échelle mondiale, il y a des groupes qui s'appellent BlackRock et Vanguard, qui sont des groupes considérables, qui pèsent des dizaines de milliers de milliards de dollars, et qui font la pluie et le beau temps dans la pub. Et les chaînes en question, elles appartiennent à des milliardaires qui souvent sont liés à ces grands groupes, mais elles ont aussi besoin de revenus publicitaires qui viennent de sociétés que contrôlent ces grands groupes. Et on voit bien exactement ce qui s'est passé avec X d'Elon Musk, c'est que quand vous vous mettez à dos les lobbies dont on parle, donc parce que vous dites du bien de la Russie ou vous dites que Israël abuse ou n'importe quoi, vous pouvez perdre du jour au lendemain 50 ou 80% de vos revenus publicitaires et voire même perdre vos licences d'exploitation, c'est-à-dire le droit pour une télé, en France par exemple, d'émettre. Donc évidemment, ils sont tous très prudents. Parce qu'en plus, les télés touchent énormément de subventions de l'État. Elles touchent de la pub de l'État et de l'Europe. Et donc, plus elles sont sages, plus elles gagnent de l'argent, plus elles peuvent donner des gros bonus à leurs journalistes. Et donc, les journalistes se disent, après tout, pour ma grosse voiture, pour ma maison de campagne, pour mon machin, puisque tout le monde dit un peu la même chose, je ne vais pas prendre le risque d'être viré parce que je dis autre chose. Et on a vu d'ailleurs des journalistes qui avaient le courage de résister au narratif et qui se sont fait désavouer par leur chaîne dans le cadre de communiqués de presse et pour certains qui se sont fait virer. Donc effectivement, il y a une grande peur, il y a une grande censure et autocensure, mais qui vient de tous les côtés. Et elle vient aussi de la loi. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont de plus en plus draconiennes pour empêcher la liberté de parole au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France. Donc il y a la censure financière, il y a l'autocensure, il y a la loi et il y a la censure des réactions ou des directions qui ne recrutent que des journalistes dociles. Il faut savoir que vous, par exemple, Kamal, vous êtes dans une chaîne d'information, vous êtes libre et on vous a recruté parce que vous aviez cette liberté de parole, ce réseau de personnes que vous pouvez appeler, avec lesquelles vous pouvez travailler. Il y a d'autres médias dans lesquels c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va recruter essentiellement des journalistes qui auront le même bon profil de petits soldats du discours communément accepté.
Alors, une dernière question, Bertrand Scholler. Donc, avec tous les changements qui viennent d'intervenir sur la scène internationale, est-ce que on peut envisager dans les semaines ou dans les mois à venir, je veux dire à court terme, hein, le début de pourparlers de paix en Ukraine? Et ici, il y a possibilité, dans quelles conditions vous pensez elles auraient lieu?
Il y a le président Xi, effectivement, qui s'était exprimé, et Vladimir Poutine également, depuis très longtemps au sein des BRICS, et on en avait parlé déjà ensemble, Kamal, sur le côté indispensable de crever cet abcès et de trouver les conditions d'une paix durable. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui continue à se passer aujourd'hui? Tous les médias disent « c'est super, le Hamas et Israël, grâce au Qatar, ont réussi à s'entendre ». Alors déjà, tous les jours, depuis, ils annoncent que ce n'est pas du tout ce qui avait été annoncé qui aura lieu et la paix sans cesse reculée. Mais les images, elles continuent d'arriver. C'est-à-dire qu'il continue à y avoir des bombardements, à y avoir des immeubles détruits, à y avoir des vies d'enfants et de femmes renversées. Mais surtout, tous les jours, là où Israël demande l'exode, entre guillemets, des derniers habitants de la région nord de Gaza, ils passent par des contrôles. Et dans ces contrôles, Israël fait des nouveaux prisonniers. D'accord. C'est-à-dire qu'ils mettent... Et donc, on est dans un circuit qui est infernal. C'est-à-dire qu'au lieu de véritablement vouloir l'apaisement, ça c'est uniquement pour les médias, pour dire on veut l'apaisement, mais dans la réalité... Il n'y a pas du tout cette intention de faire la paix. Il y a véritablement l'intention, telle qu'elle est décrite dans les documents de Wikileaks, qui ont été montrés mi-octobre, qui ont été sortis mi-octobre, et c'est un plan de, véritablement, et le mot est terrible à prononcer, mais de nettoyage ethnique de Gaza. Et ça y ressemble.
Et par rapport,
parce que vous dites la paix, mais tout est écrasé à Gaza.
Et par rapport à l'Ukraine, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors par rapport à l'Ukraine, moi je pense que la paix telle que elle avait été négociée dès mars, la Russie n'a pas du tout l'intention de profiter entre guillemets de l'avantage qu'elle a acquis au fil des mois. Les Russes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ce qu'ils ont dit au moment du lancement de l'opération spéciale. Ils ne veulent pas que l'Ukraine soit un pays ennemi. Ils ne veulent pas que l'OTAN s'installe en Ukraine. Ils ne veulent pas qu'il y ait un risque pour la Russie. Donc, quelque part, ils voudraient que l'armée qui est basée en Ukraine, ce soit un peu comme une espèce d'armée de casque bleu qui garantit à l'Ukraine sa souveraineté, etc. Parce que les Russes, ils n'ont pas du tout envie d'avoir des territoires en plus. Et ils veulent surtout que l'Ukraine soit un peu plus fédérale, c'est-à-dire que les républiques en Ukraine, elles aient des possibilités d'avoir des spécificités qui leur correspondent. C'est-à-dire que les gens, s'ils ont vraiment envie de parler le russe, ils puissent, etc. Ils veulent, les Russes ont juste dit il ne faut pas que l'Ukraine devienne une espèce de dictature. Alors je sais que c'est compliqué à entendre pour beaucoup de personnes, parce qu'on répète tellement que c'est ça la Russie. Mais en réalité, la Russie, c'est l'inverse de ça. Et le monde occidental a tendance à dire l'inverse de tout ce qu'il est. C'est-à-dire dire le miel, c'est pas bon alors que c'est excellent, la Russie, c'est une dictature alors que ça n'en est pas une, etc., etc. Vous voyez, je pourrais faire mille exemples.
D'accord. Ben, je vous remercie, Bertrand Scholler, pour cette intervention et j'espère vous retrouver avec un immense plaisir dans un entretien un peu plus long pour traiter dans le fond un sujet d'actualité ou concernant les relations internationales. Merci beaucoup.
Merci Kamal.
C'était l'analyste géopolitique français Bertrand Scholler. Il s'est exprimé sur les causes de l'absence dans les médias occidentaux d'interprétation ou de lecture négative des déclarations de Vladimir Poutine au sommet virtuel du G20 quant à la disposition constante de la Russie à entamer des négociations de paix avec l'Ukraine. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.